Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis les studios du Boulevard. Dans le cadre de l'émission Un brin d'histoire, une ramelée d'historio pour les occitanophones. Alors aujourd'hui, nous enregistrons début juillet, c'est l'époque où s'annonce la période des moissons qui traditionnellement commençait pour la Saint-Pierre 29 juin et durait jusqu'au 15 août, l'Assomption. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui pourra pour certains évoquer Lévi-Strauss et ses recherches en ethnologie culinaire, les arts de la table. Et j'ai eu une idée d'essayer de retrouver à travers sa cuisine traditionnelle ce qu'a pu être l'histoire et ce qu'on appelle, d'un terme très savant, la culture ethnologique du Quercy. Alors ce Quercy qui est un pays qui n'est pas celui des chênes mais des sangliers, sanglier signifiant druide, ce Quercy aurait-il une cuisine tout à fait spécifique, particulière, qui lui serait propre et à travers laquelle il révélerait son âme profonde, son être, sa quintessence? C'est la question que nous allons essayer de voir et que je me pose et que je vais essayer de développer à travers des exemples concrets et poursuivre un ordre très chronologique. C'est très simple, depuis les entrées, les potages jusqu'au dessert. Lors des repas, des banquetailles, des banquetus, des festins du pays de Quercy qui passaient au XIXe siècle pour un pays de haute liesse et de franche lipée où la cuisine est sans beurre et sans reproche, disaient les grands gastronomes du XIXe siècle. Ce sont des recettes qui peut-être bien nous viendraient du fond des âges. Ce serait l'histoire par la mangiaille, la mancisclo, les taulezados. Mancisco, c'est ce que l'on mange. Taulezado, c'est la tablée, les grandes tablées de monde, d'invités. Je vous disais que les moissons commençaient vers la Saint-Pierre, 29 juin, et duraient jusqu'au 15 août. Et c'est une chose que je tiens de mes grands-parents charentais, mais aussi de mes voisins de Montcuq, originaires du Boulevard, c'est que les moissons, par ce temps très chaud et très sec qui s'impose, donner aux agriculteurs qui peinaient aux heures les plus chaudes et les plus sèches de la journée dans des tenues vestimentaires qui, à l'époque, devaient être décentes, donc longues. On tolérait tout au plus que les hommes retroussent leurs chemises jusqu'au coude. Les femmes devaient garder les manches de chemise jusqu'au poignet. On devait être habillé en long. On portait de grands chapeaux. On rentrait à midi épuisé du travail de la matinée avant de reprendre l'après-midi après une courte sieste. Et ma grand-mère charentaise me disait « Rien ne vaut pour se remettre des travaux des moissons, des travaux des champs, disait-elle en jabraï des Charentes, je vous le dis en occitan, une bonne soupe au placaudo, une bonne soupe bien chaude, mais pas n'importe quelle soupe, pas une soupe claire, non. Ce qu'on aimait dans nos campagnes d'autrefois, de tout le bassin aquitain, c'était des soupes épaisses, brûlantes, enrichies de carne salade, de chair salée. C'était des potages aux légumes, avec de l'ail, du sel. En occitan, le sel, c'est la sal, c'est féminin. Du poivre, pebre, du laurier, laurel, et que l'on faisait cuire longuement dans une marmite, dans une houle, dans la cheminée. C'était des soupes qui duraient, on les appelait des soupes éternelles. Au fur et à mesure que l'on puisait des légumes et de la viande, on en remettait d'autres. On connaît des familles, des fermes, disons, des propriétés agricoles dans le Massif central, où la même soupe cuisait depuis plusieurs générations dans la marmite, renouvelée régulièrement par l'apport de nouveaux légumes, de nouveaux morceaux de viande. Et lorsqu'on refaisait une soupe complètement, depuis sa base de départ, il fallait évidemment nettoyer la marmite, et on disait qu'on faisait une soupe au denebe, une soupe nouvelle. Alors les légumes, et on le sait par les rapports des inspecteurs des contributions directes et indirectes publiés par les archives du département du Lot, rapports élaborés dans les années 1850, en pays de Montcuq et dans la majeure partie du Quercy, les légumes étaient de rustiques légumes. C'était des carottes, pastenargos, des choux, caulets, des oignons, cebos, des navets, rabos, des poireaux, porres, des pommes de terre, patanos, qui avaient remplacé souvent les fèves, laifabos, et aussi des cuchos, des citrouilles, si vous voulez. Donc c'était donc des légumes rustiques, relativement grossier de goût, mais qui exprimait bien, c'est ce que savent tous les jardiniers, et il n'y a rien de tel pour prendre le goût du sol où on les cultive que des légumes racines. Les carottes, les navets, les radis prennent le goût de la terre où on les cultive. D'où l'interdiction de fumer abondamment les parcelles où vous allez ensuite cultiver des carottes, par exemple. Sinon, vos carottes vont prendre le goût de terreau, pour ne pas dire de fumier, ce qui est pas le résultat recherché. Alors, il y a dans cette culture occitane, qui est celle du Quercy depuis au moins les origines mêmes de l'émergence de l'entité País de Carci, avec l'époque mérovingienne, carolingienne, il y a au Moyen-Âge une chanson qui est bien connue, dans laquelle on a vu un écho, un reflet, une évocation, comment dirais-je, du drame qu'a constitué pour nos populations la croisade contre les Albigeois et l'extinction de la dynastie des comtes de Toulouse. C'est la fameuse Cançu del Bouyer, où celui-ci, quand le bouyer ben de laura, quand le bouvier revient du labour, trobo sa fenno al prep del foc, il trouve sa femme auprès du feu, tristo e desconsolado, triste et ayant perdu le consolamen occitan. Voilà ce que ça veut dire. Et il lui dit, se es malauto, digo melu, te faré une putazze, amb un rabo, amb un caulet, un laugeto magro. Si tu es malade, dis-le-moi, je te ferai un potage avec une rave, un navet, avec un chou, un petit chou plus exactement, et une alouette maigre. C'est un plat qui donc, puisque le bouvier revient de labourer ses champs, c'est un plat automnal, on laboure en septembre-octobre. Et les légumes sont ceux que l'on récolte en fin d'été, des légumes racines qui ont accumulé dans leur tissu tout le soleil de l'été, et qui exigent pourtant d'abondants et réguliers arrosages. Ce ne sont pas des légumes que l'on puisse faire souffrir de la sécheresse. Alors on s'aperçoit à travers cette chanson du Bouyer, la Cançu del Bouyer, Trobo sa fenno al prep del foc, que l'élément principal dans la maison, c'est la cuisine. Dans l'oustal, l'oustal c'est pas seulement la maison, c'est pas la bastido, c'est aussi la famille qui y habite. C'est la famille mais à titre conçu comme un lignage, c'est la maison héréditaire, le patrimoine, la maison patrimoniale héréditaire, la maison de famille. Alors cette maison, cet oustal, qui est à la fois la demeure et la famille qui y habite, a pour centre la cuisine, qui porte en occitan le nom de cucchino, mais aussi de fugagno, parce qu'il y a le foc, le feu. Et que ce soit les registres de l'Inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers au XIVe siècle, futur pape Benoît XII, les fouilles archéologiques menées à Cabaret en Carcassès, à Rougy en Provence, que ce soit les 10 hérésies du vieux Quercy transmis de génération en génération dans la mémoire familiale, on s'aperçoit que la cuisine avec sa cheminée est le centre de l'oustal, elle en est aussi le ventre, c'est là la symbolique de la marmite, l'oulo, et du toupinou, c'est-à-dire tout ce qui est rond, tout ce qui est rond et renflé, qui a un couvercle, il n'y a pas de marmite qui ne trouve son couvercle, dit le proverbe, tout cela évoque à la fois le ventre, le giron maternel, mais aussi le cœur, le centre de la maison familiale, de la maisonnée, de la maison famille. Et du reste, l'enquête menée par l'association Latalbero sur le pays de Lozère, dont je recommande la lecture, nous montre bien qu'en Quercy blanc, en pays des vallées, et on pourrait l'étendre à tout le Quercy, le pivot et le pilier de la maison, c'est la mère de famille, dont elle est rémanence certaine du substrat ibérique, ibéro-aquitain. Elle est bien souvent la maîtresse ou la funciero, c'est-à-dire la propriétaire héréditaire, l'héritière en ligne féminine, ce qui est un trait caractéristique du bassin aquitain, où le patrimoine, peut-on dire patrimoine, il faudrait dire matrimoine, se transmet en ligne féminine, de mère en fille, les hommes venant engendrer des héritiers, et on dit qu'ils viennent faire gendre, benum fat cendre. Cendre doit se comprendre, c'est une contraction, une déformation du latin genere, ils viennent engendrer des héritiers. Alors la maison, l'oustal, dans l'imaginaire affectif des carcinois, des carcinoles, joue un rôle très important, elle fait des familles qui y habitent, exactement comme les cases du Béarn et de la Bigorre, ou des Pyrénées, exactement comme les etches du Pays Basque. Ces maisons-familles, elles font de ces familles et des maisons qu'elles habitent et des propriétés agricoles qu'elles exploitent les racines du pays. Il y a là donc toute une symbolique qui tourne également à propos de la préparation de la soupe dans l'oule, dans le ventre que représente la marmite. Il y a une symbolique du sel. Le sel en occitan, je vous le disais, est féminin, c'est la salle, alors que le pain, lui, est masculin. Le pain est nécessaire, on mangeait la soupe trempée. On faisait tremper la soupe. Le verbe occitan, c'est trempar, c'est-à-dire que l'on coupait de grandes tranches de pain de campagne, que l'on mettait dans l'assiette ou dans la marmite, et sur lesquelles on versait la soupe qui avait cuit dans une grande marmite dans la cheminée. Alors le sel, la selle, faudrait-il dire en occitan, la salle, était conservé dans un coffre, dans la cheminée. Un coffre, ça se dit une arco. Il était là au sec. Or, le sel, dans la France Ancien Régime, est un véritable trésor. Il a une valeur monétaire. C'est de là que vient du reste en latin le terme de salaire. Le pain était gardé au sec, dans une huche close, une arco clause. Et l'arco, c'est le trésor, vous disais-je il y a 5 minutes. On voit à travers cela se rejoindre et se conjoindre les valeurs monétaires du sel et du blé. Avec le blé, on fait du pain, mais le blé vendu fait faire de l'argent. Il y a donc là des motifs récurrents qui tournent autour de la soupe, du potage, de la soupe de famille, cuite longuement dans une marmite dans la cheminée. Motifs récurrents qui tournent et qui s'expriment à travers également l'usage du laurier. Le laurier, c'est l'arbre toujours vert des troubadours, les mainteneurs de la Languedoc, los manteneires de la lingua nostra. Et ça tourne aussi autour de la symbolique de l'ail, l'ail qui brûle, l'ail qui est chargé de toutes les vertus médicinales que l'on peut imaginer. On est donc dans un pays, si vous voulez, où à travers la préparation de la soupe s'exprime une espèce de symbolique, je n'oserais dire une mythologie, d'autres diront une ethnologie de la cuisine locale, du Quercy, à travers sa cuisine. Et ça peut s'articuler autour de différents éléments, les viandes, les carnes, qui sont quelquefois des viandes sauvages, de gibier, mais qui sont surtout les viandes de volailles élevées dans la ferme, dans la maison, dans des étables, et de volailles conservées dans la graisse, d'où les peaux en terre cuite vernissée. Et c'est du reste ce qui m'avait beaucoup surpris quand j'ai appris de la part de mes voisins, de ma famille, de ma mère, que la grande saison de consommation des confits, c'est-à-dire de la viande conservée dans la graisse, c'était pas l'hiver, contrairement à ce que je m'imaginais, mais c'était l'été, la saison des moissons. C'est au moment des gros travaux que l'on mangeait les confits dans la graisse. Et ces étés chauds et pluvieux du bassin aquitain sont particulièrement favorables à quoi ? Aux escargots. Or, la grande saison de ponte des escargots se situe en juillet-août. Tout jardinier le sait. Alors, les escargots en Occitan ont une particularité, c'est qu'ils sont aussi bien masculins que féminins. Vous savez que l'animal est hermaphrodite. Ça se retrouve en Occitan, où on dira aussi bien l'ucagarol, masculin, que l'acagaraulo, féminin. Il y a une grande recette caractéristique du Quercy qui est celle des escargots à la sauce du pauvre homme. Alors, je ne connais pas très bien la recette, ma mère la réussissait très bien. Je sais vaguement ce qu'il y a dedans, c'est un goût assez épicé, poivré, un peu acide. Je me doute vaguement de la composition, mais je n'en suis pas sûr. Je préfère ne pas trop m'avancer dans ce domaine-là. Mais rappelez-vous que les escargotières sont des témoins des cultures, des cueilleurs médio-atlantiques et méditerranéens, du paléolithique et du mésolithique. Les maghrébins du mésolithique et du paléolithique étaient de grands consommateurs d'escargots, comme toutes les populations de la façade atlantique de l'Europe. On retrouverait là les racines de la culture quercinoise, carcinole, dans le néolithique, le mésolithique et le paléolithique. Alors pourquoi l'escargot peut-il devenir féminin, cagaraulo, en occitan ? Il y a là une symbolique, c'est celle de la conque. La coquille d'escargot évoque une conque. Songez au tableau de Botticelli, Vénus sortant des ondes. Or ici à Montcuq, la place à l'ouest et au pied du clocher octogonal de Saint-Hilaire s'appelait, et devrait toujours s'appeler, la place de la conque, la place de la conque. C'était le nom d'un bâtiment public qui se trouvait au bord de cette place, où se trouvaient les mesures officielles et les petites boucheries. Et les mesures officielles portaient le nom de cuncos, parce qu'elles avaient une vague forme de coquille, si vous voulez. Or, dans ce même quartier de Saint-Hilaire, me disait Louis Vignol, il se souvenait qu'encore dans les années 1950, il y avait un cordonnier qui tenait sa boutique entre deux contreforts du chevet oriental de l'église Saint-Hilaire. Et ce cordonnier, sudre en occitan, esclupaire, fabricant de sabots, ce cordonnier était payé par les habitants de Montcuq pour ses travaux en nature. On lui donnait du gibier, des volailles, des lapins. Et il aimait bien manger les lapins, la viande faisandée, et lorsqu'elle était bien faisandée, il mangeait la chair du lapin crue, trempée dans une vinaigrette à sa façon. Alors il y aurait peut-être là toute une symbolique qui nous viendrait à travers, puisque c'est une recette digne des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, miraculeusement conservée à Montcuq, il y aura toute une symbolique autour du lapin. Le lapin, on connaît sa symbolique érotique, aussi bien en latin qu'en occitan. C'est un animal lunaire dans toute l'Eurasie, et chez les Amérindiens, les populations indiennes d'Amérique. C'est l'animal de septembre, de la pleine lune de septembre. Alors que le lièvre, qui est féminin en occitan, la lèbre, le lièvre est l'animal de la pleine lune de mars. Il y aurait là, à travers l'opposition du lapin et du lièvre, du masculin et du féminin, une opposition entre les deux équinoxes, de printemps et d'automne. On pourrait également s'attarder sur l'utilisation de la vinaigrette. notamment de l'huile de noix, du vinaigre de vin noir, de cépage d'Auxerrois pied de Perdrix, la base du Cahors. Or, ce fameux vinaigre de vin noir d'Auxerrois pied de Perdrix, je le tiens de gens qui étaient au courant, se retrouve dans la recette secrète de la fameuse moutarde de Montcuq, dont j'ai parlé cet hiver, dont l'inventeur était contemporain du cordonnier travaillant à côté de Saint-Hilaire, le cordonnier de l'Arbolt. La moutarde de Montcuq et les viandes de gibier faisandées seraient-elles donc, si vous voulez, un écho lointain d'une très longue et très vieille culture ? D'autant qu'il faut savoir que le créateur de la moutarde de Montcuq, qui était liquoriste, vinaigrier, reconnaissait de la provenance de la source d'où venait cette eau, au goût de cette eau. Il y avait donc, si vous voulez, là un très vieil enracinement dans les capacités, dans les vertus, dans les virtualités, dans les richesses du pays de Montcuq dont ce monsieur était originaire. On pourrait continuer avec des évocations de recettes de cuisine qui sont dues à des apports modernes. Tout Montcuq passait les soirées d'été jusqu'à minuit, 1h du matin, assis devant sa porte dans des fauteuils, on échangeait des recettes. Et je vois encore une de nos voisines, originaire de Moissac, apprendre à ma mère la recette du fameux poulet à la façon de Montauban. En échange de quoi, ma grand-mère paternelle avait appris à cette voisine sa propre recette du poulet aux haricots plats, aux haricots écossais et aux tomates. C'était donc là, si vous voulez, toute une évocation d'une sociabilité méridionale qui s'exprimait à travers notre adaptation au climat, aux étés très chauds et très secs, qui nous fait plutôt vivre le soir et la nuit que pendant la journée. C'est un peu l'Andalousie ou l'Espagne méditerranéenne sous le ciel du Quercy. Nous allons maintenant passer à une seconde partie qui traitera de sujets légèrement différents, après un intermède musical.
Aïe, oh, cap jus la canelo. E los rumios que pasarán, e los rumios que pasarán, prendrán daigo señado. La paura già no a cos la paura già no se ne sanado al paradiso, se ne sanado al paradiso, a se non resas
Alors, je viens de vous parler de recettes de viande, je voudrais quand même ne pas trop négliger les carsalados, les chairs conservées confites dans la graisse et le sel, et qui étaient servies l'été, sautées à la poêle avec de l'ail et du persil. C'est un héritage du Moyen-Âge, lorsque les redevances en nature dues par les agriculteurs à leurs seigneurs concédants de terre, ces redevances en nature amenaient la livraison d'énormes quantités de volailles pour Noël. À ce moment-là, on les faisait fondre dans la graisse et on les mettait en conservation dans la graisse et enrichie de sel. Les curés de paroisse avaient droit à une part de ces chairs salées, on appelait ça des carnalazes, mais également ils avaient droit à une part sur la production des potagers, on appelait ça les légumnazes. Alors dans le pays de Montcuq, il y a une particularité qui m'a frappé et dont je voudrais quand même traiter là comme sujet d'histoire du Quercy, c'est qu'à Montcuq même, dans un quartier qui s'appelle le Barri de Narses, le quartier de Narses, ça veut dire des sols gorgés d'eau, des jardins, maraîchers, patrimoniaux, héréditaires, familiaux, ne portaient pas, comme il se doit en occitan, le nom de Hortz ou de Hortos, mais on leur donnait, et dans les actes notariés ça apparaît de façon très claire, le nom de Pens. Or un Pen, P-E-N en occitan, c'est une butte rocheuse. On ne comprend pas très bien comment le nom d'une butte rocheuse peut être donné à un jardin. Et les notaires disent, alors ils le disent soit en latin « hortum sive pen », en occitan « horto ou hort sive pen », donc c'est bel et bien l'équivalence. Un pen, une butte rocheuse, c'est un jardin maraîcher. J'en suis venu à me demander est-ce que par hasard il n'y aurait pas derrière le vieux souvenir du sens du terme « pen ». Mais alors c'est un homonyme en celtique, en gaulois, où « pen » veut dire « la tête », « le chef ». Alors que dans nos régions occitanes à substrat pré-indo-européen, antérieur aux Gaulois, pen, c'est la butte rocheuse. Alors si vous voulez, on appellerait du nom de pen qui signifie butte rocheuse, ce qui est en fait un cap, une tête, un chef. C'est-à-dire c'est le jardin du chef de famille. Ce serait donc une parcelle héréditaire, inaliénable, exempte de toute taxe, patrimoniale, ce qu'on appelle un alleu, en droit français ancien, en droit coutumier ancien. En occitan, ça se dit alloy. Les habitants du faubourg de Narses étaient-ils donc des alletiers, qui peuvent être aussi bien nobles que non nobles? C'est là un problème récurrent qui m'intéresse beaucoup en tant qu'historienne des institutions et historienne du droit, que je vois ressurgir notamment à propos du domaine du Mas du Cluzel à Saint-Géniès, du domaine du château de Peine également, qui a été l'objet de procès portés au XVIIe siècle jusque devant le Parlement de Toulouse par le châtelain de Peine en litige avec les habitants de Saint-Géniès. Et c'est c'est quelque chose qui ressort à propos d'un petit détail que j'avais relevé dans les actes notariés à propos des jardins de Montcuq. Un autre sujet qui devrait être traité dans ce cadre-là, c'est l'utilisation, la consommation de poissons par les populations du Quercy ancien. On s'aperçoit qu'au XIXe, XXe siècle, le poisson n'était plus utilisé guère que comme poisson salé ou en conserve et pour des consommations uniquement pendant le carême ou le vendredi. Alors qu'au Moyen-Âge, il semblerait bien, d'après les registres de l'Inquisition, que l'on consommait en Quercy beaucoup de poissons, secs ou frais, je ne sais pas. C'est un signe des relations entre le Quercy, qui est un pays enclavé, un pays à l'intérieur des terres, et les espaces maritimes, par Bordeaux avec l'Atlantique, par Montpellier et Marseille avec la Méditerranée. Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante dans ce cadre-là, c'est qu'encore vers 1900-1920, les familles bourgeoises de Montcuq envoyaient leurs cochers vers 3 heures du matin à Cahors, à la halle de Cahors, d'où ce cocher ramenait les poissons, arrivés par le train depuis Bordeaux, poissons frais et fruits de mer qu'il convenait, dans ce milieu social dominant, de faire figurer à table. Lors de leur repas somptuaire, faire figurer du poisson frais pêché dans l'Atlantique la veille et servi le lendemain à Montcuq sur la table, c'était un signe de domination sociale. Alors qu'inversement, les légumes du potager familial, eux, sont plutôt un signe d'infériorité sociale, je dirais presque d'état d'humilité, au sens du latin humilitas. Dans ce cadre-là, ce qu'on peut dire des légumes du potager familial, on s'aperçoit qu'on ne mange guère de légumes sauvages. Ce qui est très à la mode en ce moment, les plantes sauvages comestibles, mises en valeur par François Couplan dans ses nombreux ouvrages, ainsi que par Pierre Liotagui, les légumes sauvages ne sont guère appréciés ni même recherchés des Quercinois, à part peut-être les asperges sauvages, les véritables, je m'entends, pas les responsus, les pissenlits, tout le monde le comprend, les poireaux sauvages, les fleurs de salsifis. Mais on n'irait pas manger des feuilles de violette qui sont particulièrement vomitives. Quant au reste, on connaît, on découvre de nos jours les capacités nutritives et médicinales des feuilles de pâquerette, de la lierre, de la bourrache, de la consoude qui est utilisée pour l'alimentation des jeunes volailles, du plantain, les jeunes pousses de chardon panicot, la patience sauvage. Mais bon, cela, c'est une culture récente et nouvelle. J'ai connu plutôt l'utilisation de quelques légumes sauvages dont je vous ai parlé tout à l'heure, les poireaux sauvages, les fleurs de salsifis, les pissenlits, les asperges sauvages et les responsus. Dans nos légumes sauvages de jardin, figurait l'été une salade caractéristique de la saison des moissons. C'était la salade de pourpier, en occitan bourdoulaigo, associés à des tomates, qui ne sont devenues des légumes couramment cultivés que depuis le début du XIXe siècle. Des oignons, l'aïcebos, on y ajoutait des olives, des capres. C'était le plat traditionnel des moissons, lors des grosses chaleurs et des grandes sécheresses. Un des grands plaisirs des jardiniers que j'ai connus étant enfant et jeune homme, c'était de manger les tomates bien mûres, crues, le matin, avant le lever du soleil, à la rosée. C'était là une espèce de rite traditionnel de collecte de la rosée. Ce goût particulier qu'ont les tomates lorsqu'elles sont cueillies le matin de bonne heure couvertes de rosée et qui en fait des espèces de succès d'année des élixirs de jeunesse, de la jeunesse immortelle telle que certaines sculptures de la maison rabbinique de Montcuq, maison rabbinique du 12e-13e siècle au bas et à droite de la rue du Plat, juste après la mairie en montant vers le collège, famille que je pense avoir été celle d'un rabbin et d'un rabbin de la tribu de Judas. N'oubliez pas qu'à Montcuq, encore au XVe siècle, on se souvenait d'une source des Juifs, la Fonte del Zuzius. Je la vois de mes fenêtres. Alors, vous avez avec les légumes et qui venaient en fin de repas les fromages. Il faudrait parler des pains et parler des vins. Le fromage le plus consommé dans nos régions, c'était le Cantal. Je le préfère vieux et plein d'artésus. C'est le signe des échanges entre le bassin aquitain et le massif central, par les vallées des rivières navigables et des chemins de crête. J'en dirais autant du Roquefort. Quant au cabécous, ma mère qui était de Cahors, lorsque mon père allait à Cahors le samedi matin se procurer, se fournir auprès de nos grossistes, elle lui disait toujours « Ramène-moi des cabécous, mais de la vieille de Sabadell-Losès ». Elle préférait les cabécous de Sabadell-Losès aux autres. Et quant à moi, je préfère les cabécous bien vieux, bien durs et bien secs. C'est là un signe des échanges entre Bakercy du pays des vallées, Bakercy des plaines et des collines, Bakercy du sud et Aucercy d'Écosse. Quant au pain de campagne, on le préfère plutôt consistant. Le Quercy blanc, qui a été le grenier à blé du Quercy lotois, est devenu producteur du fameux croustillotte. Alors que Castelnau et Cahors avaient leur boulangerie de détail au XIXe siècle, commerces indépendants, Montcuq n'a eu de premier boulanger qu'au XXe siècle. Montcuq a longtemps continué de se servir de ses fours communautaires seigneuriaux du Moyen-Âge, ceux situés dans le quartier de la rue de l'Ast, l'Ubarri de la Carriera de l'Asto. À Cahors, on a continué l'usage des fours communautaires, d'où des noms de rue, encore au XIXe siècle. Castelnau avait des boulangeries commerciales indépendantes et qui dénotaient bien le caractère bourgeois du bourg de Castelnau, comme celui de Lozerte. Pour ce qui est des vins, on préférait au XIXe et XXe siècle les vins de Bordeaux ou de Bourgogne, cela classé, si vous voulez, ainsi que le vin de Cahors, alors que le Montcuq ancien, lui, se contentait des vins locaux, des vins du pays, et consommait environ 2 barriques de vin par famille et par mois. il y avait 500 hectares de vignes vers 1850 pour 3200 hectares de surface totale de la commune. Ce qui fait que pour 2500 habitants vers 1851, on peut considérer qu'il y avait un hectare de vignes pour 5 habitants. Ce qui n'est pas sans évoquer certains articles de la charte des coutumes de Montcuq de 1463 et de celle de Lauzerte du XIIIe siècle. Je vais maintenant, après un petit intermède musical, parler des desserts et des liqueurs. Et après, nous passerons à une conclusion.
Quand les fruits mûrs courbent les branches, et quand on voit même un dimanche les paysans quitter leur maison, c'est le début des moissons. Mais si le blé penche la tête, si le soleil est de la fête, si dans les champs montent les chansons, belle sera la moisson. Courbe, courbe, courbe l'échine, ta richesse, elle est dans tes deux bras. Roule, roule, roule la machine, et surtout, surtout dépêche-toi, car il ne faut jamais attendre, l'orage du ciel peut descendre, et tout anéantir sans raison, on sort des pans des moissons. Le garçon pense au badinage quand la récolte est finie. La fille pense au mariage quand les greniers sont remplis. Mais s'achève les confidences, l'amour, la danse et les chansons. C'est avec demain que commence l'appel des nouveaux sillons. C'est alors qu'on voit dans la plaine se déplier l'immense chaîne d'hommes et de femmes jusqu'à l'horizon, préparant la semaison. Après les récoltes, l'on sème, mais le chemin reste le même. Éternellement recommenceront pour de nouvelles moissons. Laï, 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 laï,
Alors, pour ce qui est des desserts, vous savez que dans notre pays de Montcuq, on aime bien les recettes plat sucrados, plat cunfles, plat uflados, bien sucrés, bien molles et bien gonflés. Les gâteaux les plus connus dans notre région pour être l'expression même de la pâtisserie locale, c'est la coque, le pastis, les crêpes, et d'autres gâteaux comme les merveilles et les tresegos. Alors, ces gâteaux mettent en valeur les capacités des farines locales, du blé local. Je vous disais que le Quercy blanc avait été le grenier à blé du Quercy lotois, mais également l'utilisation du sucre, qui ne commence d'être connu dans nos régions qu'au XIIe siècle, qui va se généraliser à partir du XIVe, et à plus forte raison à partir du XVIe siècle avec la transplantation dans le Nouveau Monde de la culture de la canne à sucre. Le sucre illustre bien les relations entre le Quercy et le monde méditerranéen et proche-oriental médiéval. Des familles de commerçants, juives ou pas, étaient en relation depuis le Maghreb extrême et l'Andalousie jusqu'avec les communautés juives de Chine du Sud. Le fameux voyageur arabe du début du XVe siècle, des années 1390-1400, Ibn Battuta, qui a voyagé dans tout le monde musulman, nous montre bien que certaines familles juives régissaient les échanges économiques depuis le Maroc, Sijilmassa et Canton, dans le sud de la Chine. Au XVe siècle, un commerçant de Toulouse, Aldiguier, fort connu, a accompli la grande boucle de Toulouse jusqu'au bassin du Tchad et retour par Tunis, Marseille, Montpellier, et il est rentré chez lui ensuite à Toulouse après 10 ans passés en Afrique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les commerçants de Cahors, de Caussade, de Montauban, qu'ils soient catholiques ou protestants, commercer avec les Antilles et le Nouveau Monde, dans le cadre du fameux commerce triangulaire du sucre, du rhum, des blés du Quercy, des vins de Cahors. Caussade était une des grandes têtes de pont du commerce triangulaire atlantique. Un élément intervient à ce moment-là dans les recettes locales. Je vous disais tout à l'heure que le Quercy était le pays de la cuisine sans beurre. C'est que, pour celto-germanique qu'il soit, le beurre ne commence à être introduit et connu en Quercy qu'au XVIIIe siècle seulement. À Cahors, on le sait par les recherches de Charlie Gounet dans son Histoire de l'Aquitaine, tel négociant grossiste de Bordeaux ne vend par an à Cahors et à la bourgeoisie locale, je pense surtout à l'évêque et au personnel des cours de justice, que quelques livres de beurre par an. La pâtisserie quercinoise du XIXe siècle en vient donc à ignorer le beurre. Alors que des recettes pâtissières venues des temps romains connaissent le beurre. Les Grecs et les Romains avaient connu le beurre par les Celtes. Ils lui donnaient le nom de boutyrum. Ils l'appréciaient pour son onctuosité, sa douceur moelleuse, car ils étaient très gourmands, je parle des Romains, de nourritures molles et grasses. Il faut lire pour ça les recettes d'Apicius. Pour les Celtes, nos ancêtres les Gaulois, nos pseudo-ancêtres les Gaulois, l'abondance et le bien-être, le bonheur matériel, le fait qu'une année soit plantureuse se traduisait toujours par l'abondance de beurre, de miel, de lait, de blé, donc de pain, de pommes et de noisettes. L'introduction tardive de l'usage du beurre en nos pays d'oc serait-elle une forme tardive également de celtisation ? N'oubliez pas qu'à Montcuq, bien des motifs et des artefacts, aussi bien matériels qu'immatériels, me font dire, me suggèrent l'idée d'une longue conservation du substrat culturel celtique, que ce soit le village de Prégnac et son nom, les sculptures de l'église de Saint-Donès ou celle de Saint-Hilaire de Montcuq. Alors le pastis, le fameux pastis, qui n'est pas la liqueur anisée de Marseille, est un gâteau feuilleté commun à tout l'ensemble Maghreb, Andalousie, Pays d'Oc. On le retrouve dans tout cet ensemble, qui a fait partie de la moitié occidentale de l'Empire romain. Au Maghreb, ça porte le nom de pstella, en Andalousie de pastilla, et en Pays d'Oc de pastis. C'est le latin pastellum, que l'on voit cité dans les registres de l'inquisiteur Pierre Célian en Quercy, notamment à Montcuq en 1241-42. La coque est un gâteau qui était déjà connu des Gaulois. C'est une recette gallo-romaine. À Montcuq, c'était une spécialité de famille que je sais avoir déjà été montcuquiole vers 1450. J'ai les actes notariés même. La coque demande, m'a-t-on dit, et ça explique pourquoi les boulangers modernes rechignent à en faire, 3 jours de travail, comme pour le pastis. Par contre, les crêpes épaisses, les pescazzunos, c'est un dessert carcinol, très familial, inconnu des pâtissiers professionnels, comme les merbellios, les merveilles, et les tresegos de Saint-Jean-le-Froid. J'en dirais autant des beignets de fleurs d'acacia, fritures sucrées dans l'huile, que m'avait fait connaître une vieille dame agricultrice et très bonne commerçante c'était de la Capelette d'Urfort, oui, plutôt que de Sainte-Thècle. Et elle a contribué avec un autre commerçant de son voisinage à créer le marché de Montcuq du dimanche matin. Avant l'introduction médiévale du sucre, le miel a-t-il pu être utilisé ? C'est la question que beaucoup se posent. De bonnes crêpes bien chaudes doivent dégouliner de miel et de beurre fondu, aromatisé à la cannelle, ou avec des sucres aromatisés à l'anis vert, à la badiane, à la cardamone, aux zestes d'orange. On aboutirait donc à se poser la question, moi ce que je préfère dans la coque, c'est la coque à la façon du Maghreb, c'est la mouna à l'anis. La mouna à l'anis du Maghreb, c'est exactement la même pâte que la coque, c'est la même consistance, le même gâteau. Seulement, en plus des fruits confits, on y met de l'anis. Et c'est une pâtisserie délicieuse que j'ai découvert à 7 du reste, proposée à la clientèle par des boulangers pâtissiers venus du Maghreb. Alors évidemment, dans le Quercy ancien au printemps, on ne mangeait pas la coque ou le pastis sans vin blanc. Le vin blanc que l'on préférait, c'était celui de Montbassillac, alors que ceux du château de Charry étaient réputés. Quant aux liqueurs, n'en parlons pas. Alors, les liqueurs révèlent tous les parfums d'Écosse. La génibrette à base de genièvre, la liqueur de prunelle, les agranos, celle de noix, la inuzes, une liqueur beaucoup moins connue, la fenouliedo, qui est une véritable anisette du Quercy à base de fenouil, de fleurs de fenouil, et qui sont médicinales autant que gustatives, comme la liqueur de fleurs de sauge dont je parlais dans la précédente émission. Évidemment, bon, il y a aussi toutes les recettes bourgeoises qui souvent utilisaient beaucoup d'oranges, de citrons, d'épices, de rhum. C'était le résultat de l'influence des foires de Montauban, de Montpellier. C'était un savoir ancien qui s'exprimait dans les vins, vins de fruits, vins de feuilles, vins de fleurs, de pêchers, de noyers, de sureaux arborescents, de cassis. On est là, si vous voulez, dans le monde des bourgeoisies, des villes et des campagnes du Quercy ancien, qu'a beaucoup étudié Françoise Horicoste, qu'ont beaucoup étudié les rédacteurs, les contributeurs de la revue Quercy Recherche, notamment dans ses deux numéros spéciaux de novembre-décembre 1985 sur la cuisine en Quercy, que je recommande de lire. Avec le café, noir liqueur brûlante, j'aimerais que le comme au Proche-Orient, au Liban, on consomme la confiture de rose, dont je ne vous donnerai pas la recette, c'est un secret de mes ancêtres de Cahors, de mes ancêtres Birou, aucun détail ne vous en sera révélé. Le résultat, le produit final, tient au respect d'infimes détails, sans l'observation desquels, ce produit final est immangeable. C'est une recette de famille que je tiens de ma grand-mère maternelle, que j'ai, comme toujours, un peu modifié, mais je connais la recette d'origine. Et je me souviens de l'observation d'un de mes voisins auquel j'en donnais quelques pots. Je disais toujours aux gens qui me connaissent, vous aurez des pots de confiture de rose, vous n'aurez jamais la recette. Et ce voisin, qui était un expert en matière de gourmandise, me disait, Monsieur Nardou, quand je mange votre confiture de rose, je mange le parfum de vos roses que je sens, que je hume depuis ma terrasse. C'est vous dire un peu le résultat. Ils viennent également avec ces liqueurs et ces confitures, les fruits. Alors les fruits, on les connaît, se cultivaient en Quercy de Montcuq depuis le Moyen-Âge, par la charte des coutumes de Montcuq de 1463, et par des représentations figurées. Je pense aux fresques de Rouillac représentant l'arbre du péché originel, qui est un figuier. Or, les grands fruits, les fruits sont principalement cultivés dans nos régions. Ils étaient cultivés pour être commercialisés sous forme de fruits secs. On pouvait aussi les manger en frais. Alors, ils sont connus par la charte des coutumes, ce sont les prunes, déjà au XIVe, XVe siècle, et même auparavant. On cultivait des prunes pour faire des pruneaux, des cerises que l'on exportait par Bordeaux vers l'Europe du Nord à l'état de cerises sèches, comme les pruneaux, des noix et des noisettes, des amandes, ça va de soi, des figues que l'on faisait également sécher ou que l'on mangeait fraîches. Il y avait également, alors là, ce sont les registres de l'Inquisition qui nous en parlent, les trois fruits cités par les déposants hérétiques de Montcuq, c'est les pommes, les fraises et les poires, qui demandent des conditions de climat légèrement différentes. Les fruits que je viens de vous citer précédemment sont des fruits méridionaux, méditerranéens, qui demandent un climat chaud et sec. Les pommes, les fraises et les poires demandent plutôt un climat de type atlantique, océanique, ce qui est une des caractéristiques du climat du bassin aquitain, qui alterne, qui bascule, des influences méditerranéennes avec des étés brûlants, très longs, très chauds et très secs, avec des saisons fraîches, humides et douces. N'oubliez pas une chose, c'est que ces fruits, et je vous le disais tout à l'heure, étaient cultivés pour la commercialisation, ce qui montre un peu déjà les relations intenses qui existaient entre le Quercy, notamment le bas Quercy méridional ou même le Quercy de la vallée du Lot ou celui de la vallée de la Dordogne, mais également le Quercy des vallées de l'Aveyron, du Tarn et de la Garonne, avec Toulouse, Marseille, Montpellier, mais aussi avec Bordeaux et l'Atlantique Nord, avec la Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Ouest. On est là, si vous voulez, dans un monde largement ouvert sur le monde extérieur, malgré le caractère enclavé, isolé du Quercy, qui se trouvait être relié avec les grands espaces maritimes par les vallées des fleuves qui le traversent et qui vont du Massif central vers les pays garonnais, vers les pays aquitains. C'est en quelque sorte l'image même de ce qu'est le Quercy, de l'organisation de son paysage, adossé au Massif central, ouvert vers le bassin aquitain, en relation avec le bassin méditerranéen. C'est un pays d'abondance, image du paradis comme l'Aquitaine romaine dont il fit partie, selon les dires d'un poète du 5e siècle de notre ère, Rutilius Namatianus, dans son fameux ouvrage De Reditus Suo, sur mon retour de Rome vers la Gaule méridionale. C'est un pays où l'on exploite au mieux les ressources naturelles, où l'antiquité de l'aménagement du pays et du paysage par ses habitants révèle le profond enracinement et la vieille culture locale. En quelque sorte, l'âme du Quercy, l'âme d'un pays, dont un géographe de Montpellier, dont je salue la mémoire et l'autorité, je me souviens plus très bien son nom sur le coup, mais il a été le père fondateur de l'école de géographie de Montpellier, et disait ceci, j'aimerais bien qu'on me montre l'âme d'un pays et l'esprit d'un pays. ce serait une opération de spiritisme bien difficile à réaliser. Il ne croyait guère à ce genre de notions. Mais enfin, on aime bien, lorsqu'on aime son pays, parler de l'âme d'un pays que l'on ressent lorsque, revenant de longs séjours à l'étranger, on entend pour la première fois de nouveau chanter les cigales ou bruire au fond de la vallée le ruisseau de la Nègre Vieille, à la mouline, tombant du haut des chutes qui alimentaient les anciens moulins. Et là, chaque fois que je reviens de longs séjours loin de Montcuq et que j'entends le soir sur ma terrasse bruire la Nègre Vieille, je sais que je suis revenu à Montcuq. Et lorsque j'entends chanter les cigales, c'est le paradis. Alors nous nous reverrons en septembre-octobre. D'ici là, vous entendrez des rediffusions, des émissions qui ont le plus été agréables aux auditeurs. Je pense au chocolat, je pense également à la moutarde de mon cul. Voilà, nous nous reverrons donc à l'automne. D'ici là, bien, passez un été aussi enchanté par le chant des cigales que possible. Voilà, allez, au revoir et à une autre fois.
C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Et pour un rien, elles se parlent, elles font marcher le bec. Au bout d'un moment, elles râlent, le gosier sec. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Et les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Allez! La chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles n'ont aucune hâte, à part celle de chanter. Mais force est de constater qu'elles se déshydratent. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Mais les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Aïe, 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 oh, c'est la chanson des cigales.